Lors de notre précédente émission, nous avons abordé le thème de la non-violence, et plus précisément de la non-violence active. Alors nous avons vu son efficacité en de nombreuses circonstances dans le passé, mais également dans les conflits actuels, tant politiques qu'économiques, écologiques et sociaux. Aujourd'hui, nous vous proposons d'approfondir cette réflexion en essayant de voir comment la violence a bien souvent des origines éducatives. Alors, de nombreux problèmes de dépression, de délinquance, voire même de tendance à avoir des accidents, tiennent à la manière dont les enfants ont été traités au moment où leur cerveau se formait. Alors, M. Olivier Morel s'est particulièrement penché sur la question et dans un de ses ouvrages intitulé « La fessée », il traite précisément de ce sujet. Et cette émission est la première d'une série de trois, car la lecture de ce livre nous a convaincus qu'il s'agissait d'un sujet très important, assez mal connu, et qui nous semble, comme nous le verrons mieux dans une prochaine émission, concerner l'Église. Olivier Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé de lettres, vous avez enseigné au lycée du Mont-d'Urville à Toulon.
Oui.
Vous êtes collaborateur de la revue Alternative Non-Violente et auteur également de nombreux ouvrages sur la non-violence. Alors, tout d'abord, pouvez-vous définir ce que vous appelez la violence éducative ?
Eh bien, la violence éducative, c'est la violence à l'égard des enfants, mais celle qui ne choque personne, celle qui est considérée comme acceptable dans telle ou telle société pour les faire obéir. Alors, il faut la distinguer de la maltraitance, qui est le niveau considéré comme inacceptable. Par exemple, en France, on peut dire que la gifle et la fessée sont acceptées presque par tout le monde. C'est la violence éducative ordinaire. Si on utilise, par contre, une ceinture ou un bâton pour frapper un enfant, on est considéré comme un parent maltraitant. Mais ce niveau n'est pas le même dans toutes les sociétés. Par exemple, en Suède, pays qui a interdit toute violence éducative, eh bien, la gifle est une maltraitance inacceptable. En Afrique, au contraire, la bastonnade est considérée comme normale, comme indispensable pour une bonne éducation. Alors, si on représente la violence infligée aux enfants comme un iceberg, si on prend l'image de l'iceberg, la maltraitance, c'est la partie émergée de l'iceberg, celle que tout le monde montre du doigt et dénonce. Et la violence éducative, bien, c'est la partie immergée que très peu de gens considèrent même comme de la violence. Cette image est intéressante parce qu'elle montre qu'il y a une continuité entre la violence éducative ordinaire et la maltraitance. Et que si on ne s'attaque pas à la partie immergée de l'iceberg, la violence éducative ordinaire, on n'arrivera jamais à réduire la maltraitance, c'est-à-dire la partie émergée. Parce que la violence éducative produit en quelque sorte la maltraitance. C'est cette continuité qui fait la gravité de la violence éducative. Tout simplement parce que accepter même une simple tape sur la main, c'est déjà accepter le principe qu'on a le droit de frapper un enfant. Et à partir du moment où ce principe est accepté, on ne peut jamais savoir jusqu'où on ira.
Oh, quand même, une petite tape sur la main, ça paraît pas si grave que ça. Et ça peut même être utile, par exemple, pour empêcher un enfant de se brûler à la porte d'un four, par exemple.
Moi, je trouve que l'expression « une petite tape sur la main » ou bien des fois on dit « une petite tape sur les couches », c'est très trompeur. Parce que, ou bien cette petite tape en question est vraiment petite, comme une tape affectueuse sur la main d'un ami, par exemple, et dans ce cas-là, elle n'a aucun effet dissuasif. Si on veut qu'elle soit efficace, surtout si l'enfant est un peu endurci, eh bien, il faudra frapper plus fort, donner une bonne tape, comme on dit. C'est-à-dire une forte tape, et l'escalade commence, ou risque de commencer. Et on ne sait pas où elle s'arrêtera, parce que chacun peut être entraîné beaucoup plus loin qu'il le souhaite, simplement par le fait qu'il a été frappé lui-même et qu'il répète ce qu'il a subi, ou bien parce que l'enfant se blinde et qu'au bout d'un moment, il commence à dire « même pas mal ». C'est ainsi que plus une société tolère la violence éducative ordinaire, plus elle produit aussi de maltraitance.
Oui, mais cette violence éducative, finalement, est-ce qu'elle est très répandue ?
Ben, elle est pratiquement universelle, hein. Il n'y a dans les pays européens industrialisés comme le nôtre que 15 à 20% des parents qui ne frappent pas les enfants. Sur un continent comme l'Afrique, les enquêtes ont montré qu'il y a moins de 10% des parents qui ne frappent pas leurs enfants. Et là-bas, le niveau moyen de la violence, c'est la bastonnade, comme je l'ai dit tout à l'heure. De plus, sur presque tous les continents, y compris en Amérique du Nord, aux États-Unis, les enfants sont encore frappés à l'école. Et aux États-Unis, par exemple, dans 22 États de ce pays, on frappe encore les enfants à coups de latte sur les fesses. Et souvent, ça produit des ecchymoses. Alors, inutile de dire que c'est à la fois douloureux et très humiliant. Oui. Ça se fait souvent en public, habillé hein, quand même. Alors, on peut être sûr que rares sont les enfants en fait qui échappent à la violence éducative. Même ceux qui disent qu'ils n'ont jamais été frappés, comme leur premier souvenir remonte à l'âge de 3 ans, on ne peut pas savoir ce qu'ils ont subi avant. Ou bien ce qu'ils ont subi, par exemple, chez une nourrice chez laquelle ils ont été placés.
Je hurle comme une folle, qu'elle me laisse donc tranquille. Soudain, mon bras s'envole jusqu'à sa peau fragile. Puis je fixe en silence ses yeux qui s'écarquillent, étonnés de ma violence. Couchée dans le corridor, abattue comme une quille, elle me répète à mort que je suis pas gentille. Et devant son petit corps qui se recroqueville, je me confonds en remords. J'ai battu ma fille, moi qui couvrais de blâme tous ces idiots en rogne qui disent aimer leur femme et du même coup la cogne. Je veux la consoler, mais je reste immobile. J'ai plus le droit de la toucher. J'ai battu ma fille, je voudrais qu'elle me frappe. Je voudrais qu'elle se venge, qu'elle me rende ma tape avec sa petite main d'ange. Au lieu de voiler de larmes, ses yeux qui me torpillent. Je suis une pauvre femme, j'ai battu ma fille.
Nous parlerons aujourd'hui de la violence éducative avec Olivier Morel, qui est auteur du livre « La fessée ».
Oui, mais enfin, moi j'ai une question à vous poser, parce que si cette violence éducative est universelle, est-ce que ça ne signifie pas que la violence est innée et qu'elle est instinctive ?
Si la violence éducative était instinctive chez nous, elle le serait probablement aussi chez nos plus proches cousins, les singes. Or, chez les singes bonobos, ceux qui sont génétiquement les plus proches de nous, les mères ne frappent jamais leurs petits. Elles se contentent de les éloigner des situations dangereuses. Ça devient un peu différent quand les petits sont devenus adultes. À ce moment-là, si eux-mêmes attaquent des petits, elles interviennent et elles interviennent violemment. Mais c'est sur des adultes. D'autre part, il y a une autre preuve que la violence éducative n'est pas instinctive. C'est qu'on a pu observer des sociétés humaines de chasseurs-cueilleurs où la violence éducative est totalement ignorée. Et on a des exemples sur presque tous les continents, Amérique, Océanie, Afrique. Il y a donc eu un moment où la violence éducative a paru dans l'histoire de l'humanité, mais c'est un fait culturel et donc réversible, et en un sens, ça laisse un espoir de changement.
Oui, mais alors, est-ce qu'on frappe plus ou moins aujourd'hui qu'hier ?
En fait, on frappe les enfants depuis les premières civilisations écrites à coup sûr, parce qu'on a des témoignages, des proverbes qui le disent, et peut-être même donc selon, dans certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs. Pendant des millénaires, les enfants ont été battus vraiment comme plâtre. Dans beaucoup de sociétés, les parents avaient d'ailleurs le droit, de la société romaine par exemple, le droit de vie et de mort. Et les infanticides étaient fréquents. À toutes les époques, il y a eu des gens qui ont désapprouvé cette violence, mais probablement sans influence réelle. C'est seulement à partir du XVIe ou du XVIIe et XVIIIe siècle que, peut-être à cause de l'imprimerie et de la généralisation de la lecture, les opposants à la violence éducative ont pu se faire entendre, comme par exemple Erasme ou Montaigne. Il est probable que c'est l'influence de Rousseau et de son livre Émile qui a commencé à provoquer un adoucissement très lent des habitudes éducatives. Dans les familles, le niveau de la violence éducative a très lentement baissé au cours du XXe siècle. Les pédiatres ont de plus en plus déconseillé ce mode d'éducation. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, en France, le niveau moyen, c'est la gifle et la fessée pour 85% des parents à peu près.
Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les effets de la violence éducative ?
Oui, bien sûr, il varie selon le niveau de cette violence, mais je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas de violence inoffensive. Alors, dans beaucoup de cas, les enfants reçoivent la violence éducative et de façon un peu passive. Elle n'agit que sur eux-mêmes. Alors, ces enfants ont, par exemple, davantage de maladies physiques et mentales que les autres. Ils sont, en particulier parmi les maladies mentales, les dépressions. Ils ont plus d'accidents ou plus de tendances suicidaires. Ils peuvent avoir davantage tendance à se soumettre à des personnes violentes, de même qu'ils en ont pris l'habitude, au fond, avec leurs parents. Les femmes, par exemple, si elles ont été frappées enfant, ont tendance à davantage se soumettre à un mari violent.
Ça paraît logique, oui,
et c'est une habitude acquise. Et pire, on sait que certains enfants qui ont été frappés sont beaucoup plus vulnérables aux abus sexuels de la part d'étrangers parce que, ils ont été habitués à ce qu'on porte atteinte à leur corps et ils n'ont pas le réflexe de vraiment se défendre ou de fuir.
Ça a été observé, tout ça.
Ça a été observé, oui, il y a eu des études là-dessus. Ah, oui. Alors d'autres retournent la violence qu'ils subissent, non pas sur leurs parents, sauf quelquefois une fois quand leurs parents sont âgés. Et là aussi, il y a eu des études qui montrent que la plupart des adultes qui maltraitent leurs parents âgés ont été des enfants frappés. Mais ils la retournent sur les autres et en général sur les plus faibles. Oui. La violence éducative, c'est une violence qui va de haut en bas, des forts aux faibles. L'agressivité, l'impulsivité, la délinquance, la criminalité, des fois, résultent souvent de la maltraitance et de la violence éducative. Malheureusement, quand on énumère les causes de la violence des jeunes et des adultes, quand les sociologues, par exemple, énumèrent, c'est assez rare qu'ils fassent allusion à cette cause de la violence. Et alors, ça va plus loin, parce que la psychothérapeute Alice Miller et un sociologue, Emmanuel Todd, ont tous deux montré qu'il y a un rapport entre le niveau de la violence éducative dans une société donnée et le niveau de la violence sociale, politique et même militaire. Par exemple, Alice Miller, et c'est la première qu'il a fait, a montré que les pires dictateurs du XXe siècle, Hitler, Staline, Mao Tse-tung, Ceausescu et actuellement Saddam Hussein, ont tous subi une enfance terrible. Ils ont été terriblement maltraités, sans recours. Et ils ont pris le pouvoir sur des populations qui, elles-mêmes, étaient soumises à un haut niveau de violence éducative. C'est-à-dire qu'elles étaient prêtes à obéir à quelqu'un qui corresponde à l'image violente du père, à un leader politique de ce genre. On peut dire, il me semble, que la violence éducative injecte dans les sociétés où elle est pratiquée des ferments de violence qui se manifestent de différentes façons selon les cultures, les sociétés, les circonstances. Alors dans certains pays, c'est seulement la violence sur les enfants, souvent aussi la violence sur les femmes. Dans d'autres, ça aboutit à une forte criminalité ou à une violence sociale très forte selon les circonstances du lieu et du moment. Mais ça rejaillit toujours, d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, la violence éducative n'est pas la seule cause de violence, mais c'est une cause importante. Je suis même persuadé, pour ma part, que si les démocraties européennes vivent en paix depuis 50 ans et connaissent peu de conflits internes meurtriers, c'est en grande partie à cause de l'adoucissement de l'éducation. Et d'ailleurs, les seules zones d'Europe où sévissent encore des conflits meurtriers, il n'y a qu'à regarder, ce sont les zones où l'éducation est la plus patriarcale et traditionnelle, l'ex-Yougoslavie, où l'éducation était souvent très violente, et souvent très violente, l'Irlande, le Pays Basque, la Corse.
Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que parfois la violence verbale et psychologique peut être pire encore que la violence physique ?
Alors c'est vrai que la violence verbale, par exemple injurier un enfant ou bien lui appliquer des jugements humiliants, ou bien la violence psychologique, par exemple, comme je l'ai vu, lui faire recopier 100 fois « je suis un imbécile » ou encore le traiter avec froideur, la froideur c'est une violence, c'est très destructeur. Et d'ailleurs, les pays qui interdisent la violence et physique interdisent aussi, ou dénoncent du moins, la violence verbale et psychologique. Mais je crois qu'il faut bien voir que la violence physique, elle a des particularités qui la rendent particulièrement nocive. D'abord, c'est la seule qui soit officiellement conseillée, préconisée, présentée comme indispensable.
Incroyable.
Jusque dans les proverbes de la Bible, on le verra peut-être la prochaine fois. Alors que personne ne dit qu'il faut faire subir aux enfants des injures ou des violences psychologiques. Même aujourd'hui, des psychanalystes encore recommandent certaines formes de violence physique. D'autre part, la violence physique, elle n'est pas seulement physique, contrairement à ce qu'on croit. J'ai l'habitude de dire qu'elle est comme une espèce d'arme à tête chercheuse qui va exploser dans le cerveau. Pour le comprendre, il faut se rendre compte que, comme vous l'avez dit d'ailleurs au début de cette émission, la violence physique est infligée aux enfants dans les années même où leur cerveau est en pleine formation. C'est-à-dire qu'elle influe sur la manière dont les neurones s'interconnectent. Et on peut dire, et les neurobiologistes le disent, que le cerveau d'un enfant qui a été frappé n'est pas le même que celui d'un enfant qui ne l'a pas été. C'est aujourd'hui reconnu par les plus grands neurobiologistes. Alors, les conséquences psychologiques de la violence physique peuvent être très inattendues. Par exemple, depuis que j'ai publié mon livre, j'ai reçu plusieurs lettres d'hommes et de femmes qui disent, qui affirment être devenus masochistes, sadomasochistes et même pédophiles sous l'effet des fessées qu'ils ont reçues dans leur enfance. C'était pas obligatoirement des gens qui ont été très souvent frappés. Mais quelquefois, il suffit d'une fessée qui établit un lien émotif, une espèce de fixation avec la sexualité, et ça leur reste pour la vie. Ce qui, il me semble, doit faire réfléchir.
En effet, oui.
Et on pourrait montrer encore bien d'autres effets psychologiques de la violence éducative.
Oui, si c'est vrai ce que vous dites, comment se fait-il qu'on attribue si peu d'importance à la violence éducative ?
Alors là, vous mettez le doigt exactement sur un effet psychologique de la violence éducative. C'est-à-dire que les enfants frappés, et nous l'avons presque tous été, n'ont aucun moyen de contester le fait qu'on les frappe. Si papa et maman les frappent, c'est qu'ils sont mauvais, désobéissants, méchants. Et on a donc bien raison de les frapper. Et cette conviction, acquise donc dans la toute petite enfance, s'enracine dans leur cerveau au point qu'elle en devient indéracinable. Et je crois que notre certitude qu'il est normal de frapper les enfants, elle remonte au premier coup que nous avons reçu de ceux que nous aimions le plus au monde et dont nous étions d'ailleurs entièrement dépendants. Alors aujourd'hui, il y a de grandes résistances à la contestation de la violence éducative et à plus forte raison aux propositions de loi interdisant cette violence éducative. Beaucoup de gens pensent que plus personne ne frappe les enfants, alors qu'on l'a vu, 85% des Français les frappent. Quand on reconnaît qu'on frappe les enfants, on minimise cette violence. On ne parle que de petites fessées sur les couches ou de petites tapes sur la main. Alors qu'en fait, au moins 30% des parents reconnaissent qu'ils frappent leurs enfants avec violence. Et ce qu'on ignore même, c'est que, et je l'ai constaté et mesuré plusieurs fois, un quart des enfants environ sont encore frappés à leur majorité et même au-delà. C'est-à-dire à une époque où, autant que je sache, ils ne portent plus de couches.
Oui, je le pense aussi.
Alors, je ne veux pas du tout jeter la pierre à ceux qui tiennent de tels propos, mais simplement j'aimerais qu'ils comprennent qu'ils subissent encore les effets des coups qu'ils ont reçus et qu'ils jugent si inoffensifs.
Tout ce que j'arrive à dire, c'est monte dans ta chambre. Maman va t'avertir quand tu pourras redescendre. On dirait ma vieille mère. Faut croire que cette famille, que c'est héréditaire. J'ai battu ma fille, tout de suite elle m'obéit. Ma foi, je lui fais peur. J'attends qu'elle soit partie avant de fondre en pleurs. Je suis inconsolable. Je suis une imbécile, je suis impardonnable. J'ai battu ma fille, je sais pas ce qui m'a pris. Ça s'est passé trop vite, c'est elle que je pue. demain, au déjeuner, je remplirai son bol, ses céréales sucrées, celles dont elle raffole. J'y ajouterai des dates pour que ses yeux pétillent comme avant que je la batte, ma fille.
Nous parlons aujourd'hui de la violence éducative avec Olivier Morel, qui est auteur du livre « La fessée ». Est-ce que la violence éducative a au moins une valeur pédagogique? Est-ce que, par exemple, elle permet de faire mieux travailler les enfants?
Eh bien, on a des preuves aujourd'hui que c'est exactement le contraire qui se passe. On a fait, il y a quelques années, une expérience pour savoir si des étudiants travaillent mieux ou moins bien quand ils sont soumis à la menace d'une punition. Alors, on les a fait répondre à des tests avec au poignet un bracelet par lequel on les avait prévenus qu'ils recevraient, au cas où ils se tromperaient, une faible décharge électrique. Alors, l'épreuve commence et elle dure un bon moment sans que rien ne se passe. Et pendant ce temps-là, on mesure la rapidité du travail des étudiants et la justesse de leurs résultats. Et puis, soudain, une des étudiantes pousse un cri. Elle est censée avoir reçu une décharge. En réalité, elle est complice des expérimentateurs et elle est chargée de crier à certains moments. Mais à partir du premier cri, ce qu'on constate, c'est que le travail des étudiants ralentit et leurs résultats sont moins bons. Tout simplement parce que la menace des sanctions et la peur qui en résulte les troublent. Et alors, il y a une autre preuve aussi significative de l'inefficacité pédagogique des punitions corporelles. Eh bien, ce sont les États des États-Unis, c'est-à-dire 22 États, qui ont conservé les punitions corporelles dans les écoles. Eh bien, ce sont ceux qui obtiennent les plus mauvais résultats universitaires dans le pays. Et il faut ajouter que ce sont les mêmes États où la délinquance et la criminalité sont les plus fortes.
J'ai souvent entendu dire que qui a été battu, battra. Est-ce que ça vous paraît vrai ?
Alors, la question vaut d'être posée parce qu'actuellement, on a beaucoup parlé de la résilience et certains sont allés jusqu'à dire que très peu de gens reproduisent ce qu'ils ont subi dans leur enfance. Ce qu'on appelle la résilience, c'est la capacité de rebondissement qui fait qu'on ne subit pas ou pas trop de conséquences des traumatismes subis dans l'enfance. Et alors là, je crois qu'il faut encore, comme je l'ai fait au début, distinguer les cas de maltraitance et les cas de violence éducative ordinaire. Parce que, comme la maltraitance, c'est le niveau de la violence qui n'est pas toléré dans une société donnée, un enfant qui l'a subi a toutes les chances de rencontrer autour de lui des personnes qui lui feront prendre conscience qu'il n'a pas été traité normalement et qui lui manifesteront du respect et de l'affection. Cette prise de conscience lui permettra de ne pas reproduire ce qu'il a subi sur ses propres enfants. Mais quand il s'agit de la violence éducative ordinaire, eh bien, l'enfant qui l'a subi ne rencontre en général autour de lui que des gens qui lui disent « Eh bien, tu l'as bien mérité, tu as été désobéissant, c'est normal qu'on t'ait frappé. » Et dans ce cas, la répétition n'est pas de 10 ou 20%, comme dans le cas de la résilience, mais de 100%. Et ça, il faut en être bien conscient. D'ailleurs, le simple fait que le pourcentage de parents adeptes de la violence éducative dans une société donnée ne change pas de génération en génération le prouve bien. S'il y avait vraiment non-reproduction de la violence éducative, ben, il y a beau temps qu'elle aurait complètement disparu.
Ben, espérons que cette violence va cesser, hein, que votre émission va nous aider.
Oui, ben, peut-être, enfin, je ne sais pas si notre émission sera efficace, mais en tout cas, si elle cesse, on pourra, à ce moment-là, on cessera d'appeler cruauté le fait de frapper un animal, agression le fait de frapper un adulte et éducation le fait de frapper un enfant.
Eh bien, notre émission se termine. Avec Olivier Morel, nous venons de parler d'éducation. Et alors, on peut se demander s'il y a un rapport entre les maristes et l'éducation. Depuis le début de la Société de Marie, les pères maristes ont été occupés à des tas de tâches, mais ils ont été souvent également dans les écoles. À Toulon, vous le savez, il y en a trois. Il y a la Cordeille, il y a Sainte-Marie, et puis il y a Fénelon.
Sainte-Marie à la Seine.
Sainte-Marie à la Seine, oui. Alors, est-ce qu'il y a eu des conseils donnés par le père fondateur aux éducateurs ? Conseils qui, à mon avis, sont valables non seulement pour les profs, mais également pour tous les parents et pour tous ceux qui s'occupent d'enfants. Et je résiste pas à l'idée de vous donner les conseils du père Forissier, que vous avez peut-être connu. Voilà ce qu'il disait. « Je souhaite que les enfants aient des éducateurs qui les admirent, comme Dieu admire sa création. » Qui les respecte en tant que fils de Dieu, qui les libère de toute peur, qui refuse pour eux toute fatalité et qui les mette debout, car la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, qui les invite à entrer joyeusement dans la vie, sûrs qu'ils sont aimés de Dieu et en route vers le bonheur. Vous exagérez pas un peu, allez-vous me dire ? Et sans doute, mais c'est un but vers lequel on peut tendre. Ça n'est pas facile, mais qui vous dit qu'être chrétien, c'est facile ?
Voilà, Olivier Morel, nous vous remercions et nous rappelons que pour ceux qui souhaitent en savoir davantage, ils peuvent trouver votre livre, La Fessée, qui est paru aux éditions La Plage. Au revoir et merci.